Saint-Esprit, ainsi soit-il, que les esprits saints remplissent les cœurs de vos fidèles, qui aimez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu que les instruits du cœur de fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, nous voilà à nouveau ensemble à l'occasion, cette fois-ci, du troisième dimanche après Pâques. Oui, le temps passe et le confinement aussi. Et nous espérons toujours que nous pourrons, sans trop tarder, nous retrouver dans nos chapelles. En attendant, nous nous contentons de ces outils électroniques pour pouvoir rester en quelque sorte en lien avec vous. Alors aujourd'hui, ou plutôt en ce troisième dimanche après Pâques, l'Église nous fait entendre le premier pape. Il s'agit donc d'une épître de l'apôtre Saint-Pierre, qui fait, pourrait-on dire, figure de lettre encyclique, peut-être la première lettre encyclique de l'histoire de l'Église. Il faut évidemment nous l'écouter avec beaucoup d'attention, car Saint-Pierre, dans cet épître, se fait, comme d'ailleurs tous les autres apôtres, l'écho direct de la parole même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons dans l'épître de Saint-Pierre, notamment, le premier mode d'emploi de l'Évangile. Après tout, croire en Jésus-Christ, être attaché à notre Seigneur, ça donne quoi dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien? Nous retiendrons deux mots-clés dans cette épître que nous entendons en ce troisième dimanche après Pâques. Deux mots que la mentalité moderne a beau jeu d'opposer. Le premier, liberi en latin, qui veut dire libre, être libre. Et la deuxième expression, toujours en latin, servi Dei, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Autrement dit, Saint-Pierre nous demande d'être à la fois libre et serviteur de Dieu. Libre parce que nous sommes serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu parce que nous sommes libres. Comment, effectivement, concilier pour nos mentalités modernes? Comment concilier la liberté avec la qualité de serviteur? Comment être libre tout en étant serviteur? Nos adversaires savent profiter de cette contradiction apparente pour déstabiliser, ébranler et même tromper certains chrétiens. Ils ont en effet réussi en quelque sorte à faire valoir la liberté, la faire tellement valoir qu'ils ont en même temps oublié le titre de serviteur de Dieu. C'est en quelque sorte une tactique assez bien connue du démon, exagérer une vérité, l'isoler pour diminuer les autres vérités ou l'autre vérité qui lui est pourtant rattachée. Un petit peu comme la miséricorde par rapport à la justice. Il y en a qui l'exagèrent tellement qu'ils en oublient, qu'ils en viennent à oublier la justice de Dieu. Eh bien, il en est de même avec la liberté. À vouloir trop insister sur la liberté, on finit par oublier notre condition de serviteur. On oublie qu'on doit d'abord dépendre de Dieu pour être libre. Saint-Pierre est donc très clair. La liberté et notre titre de serviteur de Dieu sont intimement liés. Il nous dit en effet, comportez-vous en homme libre, mais, précise-t-il, non pas en hommes qui font de la liberté un voile jeté sur leur malice. Autrement dit, Saint Pierre nous dit que la liberté est incompatible avec la malice, c'est-à-dire le péché, contrairement, effectivement, à beaucoup d'idées reçues. Il n'y a pas de véritable liberté là où le péché domine. Pour pécher, on ne saurait prétendre à une véritable liberté. De même, on ne saurait invoquer la liberté pour excuser, pire encore, justifier le péché. Oui, la liberté est incompatible avec la malice parce que le péché, c'est précisément une servitude. C'est un asservissement, comme le laisse entendre d'ailleurs Saint Paul dans son épître aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux. Par contre, je commets le mal que je ne veux pas. » Le péché peut nous faire croire à une certaine liberté, mais ce n'est qu'un rideau de fumée. La liberté à laquelle le pécheur prétend, quel qu'il soit, n'est qu'une illusion. Et il est important, mes bien chers frères, qu'en nous confessant, et pour bien profiter du sacrement, nous prenions conscience de notre captivité. Prenons conscience que le péché nous enferme dans une captivité. Le péché nous enchaîne, le péché nous emprisonne. Et puis, autre conséquence, nous aurions bien tort, comme nous en dissuade l'Écriture, car c'est une tentation bien connue, nous aurions bien tort d'envier les pécheurs au motif qu'ils seraient libres. Libres de vivre à leur guise, libres de vivre au gré de leurs passions, ces mêmes passions qui nous tentent bien souvent. Non, le péché est une véritable servitude. Pécher, c'est d'une manière ou d'une autre se lier au démon. C'est tomber sous son esclavage, c'est tomber sous sa domination. Tant et si bien, il y a certains péchés, des péchés graves, qui peuvent entraîner une réelle possession diabolique. Saint Pierre nous dit donc que la liberté n'existe pas sans le péché, même que la liberté n'existe que sans le péché. Que sans le péché. La liberté, c'est précisément le choix de ne pas pécher, de ne plus pécher, le choix de renoncer au péché, le choix de s'en affranchir, comme aussi le choix de s'affranchir du démon et de tout ce qui nous amène au péché, en particulier le monde, avec toutes ses convoitises. La liberté, c'est faire le choix de Dieu, c'est faire le choix d'être à Dieu, d'être tout à Dieu, le choix de servir Dieu, d'où notre titre de serviteur de Dieu, dont la condition n'est pas l'esclavage, mais précisément la liberté. Par conséquent, ceux qui refusent d'être de bons serviteurs de Dieu, qu'ils le veuillent ou non, se condamnent à devenir esclaves. Esclaves du péché, esclaves de leur passion, et pire encore, esclaves du démon. Par contre, ceux qui choisissent de se convertir, c'est-à-dire de s'arracher au péché, ceux-là marchent véritablement vers une délivrance. Une image peut nous aider à mieux comprendre cela, une image qui s'inspire d'ailleurs de l'enseignement de Saint Pierre, c'est l'image du voyageur étranger. Retenez bien ces deux mots, être à la fois voyageur et étranger. Représentons-nous donc dans un pays qui n'est pas le nôtre, un pays étranger. Un pays où nous nous trouvons en plus aux mains d'oppresseurs. Et voilà que l'opportunité nous est offerte de rejoindre enfin notre pays, de rejoindre enfin notre patrie. Mais sur le chemin qui nous conduit à l'aéroport, s'offre à nous des restaurants, des salles de cinéma. La tentation est grande. En satisfaisant notre plaisir du moment, nous croyons jouir déjà de la liberté retrouvée. Mais quelle illusion! Pendant que nous nous faisons plaisir, l'avion s'envole et nous voilà à nouveau aux mains de nos oppresseurs qui ont réussi à nous rattraper. Voilà, me semble-t-il, l'image de ces pauvres chrétiens qui se font illusion, croyant qu'en péchant, ils sont libres. Saint Pierre va nous indiquer les conditions pour être libres. Quelles sont les conditions? Quels sont les moyens pour être libres? Il en propose notamment deux. La foi, comme il nous l'indique dans le premier chapitre de son épître, et puis, comme c'est dit dans la conclusion de l'épître que l'on entend dans ce troisième dimanche après Pâques, la grâce. La foi et la grâce. La foi et la grâce sont les conditions pour être libre. La foi, cette vertu théologale que vous connaissez, nous permet d'avoir le plein usage de nos facultés supérieures. Et c'est la condition de la liberté. C'est d'avoir le plein usage de nos facultés supérieures, que nos facultés supérieures ne se laissent pas conditionner, influencer par les facultés inférieures. Et la foi nous permet d'avoir le plein usage de notre intelligence. Une foi qui précisément éclaire notre intelligence, qui tient notre intelligence en éveil, c'est-à-dire qui permet à notre intelligence d'être continuellement éclairée par la foi. C'est une précision de Saint Pierre. Mais ça n'est pas tout. La foi permet aussi à notre intelligence d'être parfaitement sensée, dit encore Saint Pierre, c'est-à-dire orientée, fixée sur Dieu, l'objet de la foi, Dieu lui-même. Donc c'est l'intelligence qui fait que Dieu, le ciel, l'éternité bienheureuse, c'est finalement toute notre vie. C'est tout le but de notre vie. C'est ce vers quoi tout doit tendre dans notre vie. C'est une foi qui nous fait consentir à la véritable lumière, c'est-à-dire aux raisons d'en haut, pas les raisons de ce monde, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse surnaturelle. La foi nous fait consentir aux explications, aux pensées d'ordre surnaturel. La foi fait appel à des principes surnaturels indiscutés, certains, absolument certains. C'est donc la foi qui nous permet de nous conduire d'après ce qu'elle nous fait connaître, ces raisons surnaturelles qui sont certaines, qui sont indiscutées. Et la foi qui nous éclaire ainsi, précisément, nous permet d'être libres, étant donné qu'elle nous donne le plein usage de cette faculté supérieure qu'est la foi. C'est vous dire que pour être libre, pour se mettre en condition d'être libre, il faut s'entretenir dans la foi. Il faut que la foi se développe en nous et que nous en vivions. Et puis enfin, la deuxième condition pour être libre, c'est la grâce. Ec enim gratia in Christo Jesu domino nostro. Et ces derniers mots nous rappellent que la liberté à laquelle nous devons aspirer, cette liberté qui est l'idéal de la vie chrétienne, est avant tout l'effet de la grâce. L'effet de la grâce en Jésus-Christ. Et qu'elle résulte donc, cette liberté, d'une réelle dépendance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons alors, pour la recevoir, dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre dans une soumission vis-à-vis de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui a remporté la victoire sur le péché. Cette liberté, c'est précisément la victoire de notre Seigneur sur le péché. Notre liberté découle de cette victoire. Notre liberté est comme le retentissement de la victoire de notre Seigneur dans notre âme. Notre liberté qui se vérifie chaque jour, chaque fois que nous nous affranchissons du péché, est comme une nouvelle conquête pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette victoire que notre Seigneur a obtenue par son sacrifice sur la croix. Ce sacrifice qui se renouvelle chaque jour sur nos autels. C'est vous dire que pour être libre, il faut précisément vivre à l'ombre de la croix, vivre du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et se conformer, bien sûr, à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour conclure, il y a cette belle oraison que nous récitons ce troisième dimanche après Pâques. Ô Dieu qui montrait à ceux qui errent, à ceux qui se trompent, la lumière de votre vérité, afin qu'ils puissent rentrer dans la voie de la justice. Donnez à tous ceux qui sont placés dans les rangs de la profession chrétienne la grâce de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom et d'embrasser tout ce qui lui convient. Il est question donc de la lumière de la vérité même de Dieu, cette lumière qui nous est assurée par la foi et qui nous permet justement d'emprunter la voie de la justice. La voie de la justice, c'est cette voie dans laquelle nous servons Dieu, nous conduisons en serviteurs de Dieu. Et cela, cette lumière qui nous permet d'entrer dans la voie de la justice, justement, nous donne la possibilité de repousser tout ce qui est contraire à ce nom, de repousser le péché, de repousser tout ce que les convoitises pourraient nous suggérer, et puis d'embrasser tout ce qui convient au nom chrétien. Et nous avons enfin cette expression, pourrait-on dire, ce bijou emprunté à la secrète de ce dimanche, « Terrena te sideria mitigantes », donc la grâce de contenir les désirs terrestres, de les contenir, de les modérer, et qu'en les modérant, nous apprenions à aimer les biens célestes. Voilà en quoi se ramène finalement la liberté du chrétien. Alors, nous allons, en ce mois de Marie, nous tourner vers la très sainte Vierge Marie. Nous la connaissons pour sa puissance redoutable vis-à-vis du démon, celle qui a écrasé sa tête et qui continue à l'écraser. Elle est toujours redoutable au démon. Eh bien, vivons sous sa protection, mettons-nous à son école, laissons-nous accompagner par la très sainte Vierge Marie pour que nous puissions, avec elle, repousser toutes les suggestions du démon, avoir cette capacité, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir dire non au démon et dire oui à son divin Fils afin de le contempler un jour dans l'éternité bienheureuse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.